Merci Seigneur. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, c'est le verset 14. Jean chapitre 6, verset 14. Nous allons voir ce soir ensemble. Le cinquième miracle qui est raconté par Jean, ça se trouve tout de suite après le quatrième, qui est la multiplication des pains pour les 5000 personnes. Et Jean chapitre 6, verset 14 nous dit, il parle de la foule qui a été nourrie, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. Merci Seigneur pour cette histoire. C'est quand même quelque chose de remarquable de voir que Jésus est capable de marcher sur l'eau. Et si on regardait les 7 miracles que Jean nous raconte, on voit qu'il y a 7 impossibilités que Jésus est capable de faire lui. 7 impossibilités. Et là, entre autres, il est capable de marcher sur l'eau, ce que personne d'autre au monde n'a jamais fait. Mais ce n'est pas ça sur quoi je voudrais insister ce soir. Ce soir, je voudrais qu'on voit ensemble qu'il y a, 4, on va dire, 4 mouvements dans ce texte qu'on a lu. 4 choses qui se passent. Et le premier de ces mouvements, c'est du ciel. Il y a un mouvement qui se passe du ciel vers la terre. Du ciel vers la terre, il y a un mouvement qui se passe parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Dieu a laissé dans sa parole une prophétie. Dieu, le Dieu créateur de l'univers, s'est intéressé à un moment donné aux hommes et il leur a donné une parole. Il y a quelque chose qui s'est passé du ciel vers la terre. Et si on lisait le Deutéronome, l'endroit où c'est écrit, je vous passe le soin, c'est dans le Deutéronome 18, on voit cette promesse qui est faite que Moïse raconte, il vous enverra un prophète comme moi. Il faudra que vous l'écoutiez, il va vous enseigner. Il y avait une promesse qui était présente, et on peut lire juste avant, au chapitre précédent, verset 42, Jésus en parle justement de cette promesse. Verset 42, Jésus dit, « Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. » Parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Et là, Jésus s'adresse aux pharisiens en particulier qui, eux, ne croyaient pas du tout que Jésus était l'envoyé de Dieu. Et je réfléchissais à ces choses, je pensais à une histoire toute simple. Imaginez un homme riche et fier qui dit à tout le monde qu'il connaît le roi du pays. « Ah, moi je suis un intime du roi, je le connais parfaitement, c'est mon ami ». Etc. Et puis, à un moment donné, alors qu'il est en train de parler de ça, de dire à tout le monde qu'il a cette connaissance, à un moment donné, il y a le fils du roi qui arrive, sauf que le fils du roi, il est habillé en habits classiques, normaux. Et, par contre, le fils du roi, il ressemble à son papa. Normal, comme un fils ressemble à son père. Et pourtant, c'est cet homme riche qui est là, c'est un peu comme une parabole, hein. Je vous fais seulement travailler l'imagination. Cet homme riche qui est là, parce qu'il ne voit pas forcément quelqu'un qui a des habits royaux, somptueux, et quelqu'un qui n'a pas l'air très riche, ben il méprise ce fils. Il ne se rend pas compte de la ressemblance. C'est exactement ce qui s'est passé avec ces pharisiens. Et Jésus, je ne sais pas si vous avez fait attention à cette parole, mais il leur dit, « Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Parce que Jésus était venu, son seul but à lui, c'était pas de se glorifier, c'était de glorifier le Père. Si on lisait Jean chapitre 1, verset 14, on voit que Jésus est venu, et il est venu, et nous avons pu contempler sa gloire comme, une gloire comme la gloire du Fils venue du Père. Jésus est venu du Père, il est venu pour montrer la gloire du Père. Et des personnes qui étaient là et qui étaient capables de dire, non, Jésus ne vient pas de Dieu, Jésus était capable de leur dire, vous n'avez pas l'amour de Dieu. Parce que quelqu'un qui a l'amour de Dieu va reconnaître en Jésus qu'il a cette expression divine qui fait qu'il a quelque chose de particulier. On ne peut pas dire que c'est un homme comme les autres. Et c'est sûr, quand on lit tout le contexte, on se rend bien compte de cette vérité. Mais les pharisiens, eux, étaient tellement ancrés dans leur religion, dans leurs coutumes, qu'ils ne se rendaient plus compte que Jésus était en train de leur montrer le Père. Et s'ils avaient vraiment trouvé, grâce à leur religion, l'amour de Dieu, eh bien, ils auraient reconnu en Jésus cet amour. Sauf que ça n'a pas été le cas, ça a été tout l'inverse. Leur religion les a éloignés de Dieu, les a amenés à ne pas reconnaître Jésus. Jean chapitre 3, verset 31, je le lis pour vous. « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. » Celui qui a reçu son témoignage, par contre, a certifié quoi ? Que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Et à ce moment-là, c'est Jean-Baptiste qui est en train d'expliquer à ses disciples pourquoi Jésus, entre guillemets, il a plus de succès que lui. Pourquoi il baptise plus de disciples ? Pourquoi il y a ces choses qui se passent ? Les disciples de Jean-Baptiste, il y a une espèce de jalousie qui est présente, mais Jean-Baptiste leur dit non, c'est normal. Celui qui vient d'en haut, c'est normal qu'il soit au-dessus. Et moi, j'aime comment Jean-Baptiste, il parle de Jésus. Il dit que c'est celui qui vient d'en haut, celui qui vient du ciel. Jean-Baptiste, il a reconnu, il sait que Jésus, ce n'est pas un homme comme les autres, même s'il est né dans une personne de sa famille en plus. C'est comme un cousin aux yeux humains. Mais il est né par le Saint-Esprit. Et ça, il n'y a personne d'autre au monde qui a eu cette particularité. Et il dit ensuite de Jésus, celui que Dieu a envoyé. Comme ces personnes qui ont compris, celui-ci est vraiment le prophète. Mais le Seigneur Jésus nous donne cette question, est-ce que nous allons le recevoir tel qu'il est ? Tel qu'il est, c'est-à-dire celui qui vient d'en haut. Déjà, le mouvement, c'est la promesse de Dieu, Dieu qui fait du ciel, de sa sainteté, il nous donne une promesse qu'il envoie son prophète, son fils en particulier. Et Jésus est cette personne qui accomplit cette promesse. Est-ce que nous allons simplement le recevoir ? Déjà, première question. Deuxième mouvement, ça se passe pour ce peuple-là qui a vécu le miracle et qui passe du miracle au mirage. Il a une mauvaise perception de ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'il vient de vivre un miracle quand même. Il a été nourri miraculeusement dans un lieu désert, pas dans un endroit où il y avait des plantations et toutes sortes d'arbres fruitiers. C'était un lieu désert. Et c'est là que le Seigneur Jésus a choisi de les nourrir. Mais parce qu'il n'a pas veillé, parce qu'il n'a pas eu le bon comportement, parce qu'il a laissé peut-être ses raisonnements prendre le dessus, il est passé du miracle au mirage. Parce qu'on voit au verset 15, ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Vous êtes d'accord ? Le peuple vient dans ce but-là, et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même, c'est qu'ils n'ont pas compris la leçon du miracle. Parce que tous ces miracles dans l'évangile de Jean, ils ont tous une leçon spirituelle. Jésus les a fait, pas au hasard, il les a fait dans un but précis. Et là, le but quand même, il était assez facile à trouver, c'était que Jésus voulait être lui-même le pain de vie. D'ailleurs, il va l'expliquer dans la suite de ce chapitre. Jésus veut être le pain de vie, celui qui apporte la vie par sa simple présence. Dans ce cas, il a nourri des milliers de personnes. Ce que un homme ne pouvait pas faire, lui, il a fait par sa personne. Il a pris les pains qui étaient présents, il a pris les poissons et il a multiplié tout cela pour nourrir une foule. Mais l'image spirituelle, c'était que l'homme a besoin de Jésus pour vivre de manière spirituelle. Et les gens qui étaient là, ils n'ont pas compris ça. Eux, ils voulaient du roi qui leur apporte la prospérité. Est-ce que vous n'aimeriez pas d'un roi, d'un président qui vous assure que tous les jours, votre frigo, il est plein ? Ça ferait des économies quand même. Il n'y aurait plus la crise, oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment dans ce but-là qu'ils cherchaient Jésus. D'ailleurs, on voit par la suite que Jésus leur dit au verset 26, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Voilà pourquoi ils cherchaient le Seigneur, parce qu'ils avaient été rassasiés. Mais les gens ne sont pas... Ces personnes-là, ils ont cru en Jésus, ils ont cru qu'ils pouvaient leur apporter la prospérité, mais ils n'ont pas cru que Jésus était ce besoin fondamental dans leur vie. Ils n'ont pas cru que Jésus était cette personne qui avait cette première place. Cette personne, oui, qui était vraiment le prophète, mais s'il était vraiment le prophète, je dois m'arrêter et écouter son enseignement. Et son enseignement, ce n'était pas de dire « faites-moi roi ». Jésus, il n'était pas venu dans ce but. Son enseignement, c'était « repentez-vous, convertissez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Maintenant, allez-y. Le royaume de Dieu est proche, mais rentrez-y dans ce royaume. Faites-vous un cœur nouveau. Abandonnez votre péché, toutes ces choses. » Et moi, j'entends parler de personnes qui ouvrent la Bible au hasard pour que Dieu leur réponde. Vous avez déjà rencontré des personnes comme ça ? Et même si c'est vrai que des fois Dieu le fait, dans des contextes bien particuliers, moi ça m'est arrivé, mais ça ne m'est pas arrivé en cherchant systématiquement à ouvrir ma Bible au hasard et en espérant que Dieu réponde, parce que moi je connais des personnes avec qui j'ai discuté qui ne lisent la Bible que au hasard et qui croient que de cette manière, ça va tomber pile poil au bon verset ou au verset qui va correspondre à leur situation. Et souvent, ils se méprennent totalement du sens du texte parce qu'ils ne regardent pas au contexte. Ils le prennent à leur sauce, dans leur raisonnement à eux. Et il y a quelqu'un qui parlait de cet exemple où un jeune homme qui dit « Seigneur, parle-moi par ta parole. » Et ce jeune homme, il ouvre sa Bible et il voit Judas à la se pendre. Alors il dit « Non, Seigneur, parle-moi, j'ai pas compris. Dis-moi quelque chose. » Et il ouvre encore sa Bible, va. Et toi, fais de même. Vous voyez le danger ? C'est totalement absurde de faire comme ça. Et même si le Seigneur, quelquefois, nous permet, moi, ça a été le cas, j'ai fait une prière dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, j'ai comme un voile sur les yeux, je ne comprends pas ta parole. Seigneur, parle à mon cœur. Et j'ai commencé à lire la Bible, mais pas du tout dans ce but d'être répondu, simplement pour fortifier mon esprit. Et à ce moment-là, par contre, Dieu a permis que je tombe sur un verset qui réponde à ma prière. Comme il aurait pu permettre qu'une personne rentre dans la pièce et me dise une parole. Comme il aurait pu permettre que j'aille à une réunion et que j'entende un verset être cité. De cette manière-là, oui. Et j'ai entendu cette parole. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, j'ai lu plutôt cette parole dans les Corinthiens, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et je l'ai saisi par la foi. Seigneur, je veux me convertir et je sais que le voile va être ôté. J'étais déjà converti quand j'étais enfant, mais je veux venir à toi véritablement de tout mon cœur. Tout ce qui n'était pas à toi à ce moment-là, mais je te le donne en totalement et le Seigneur l'a fait. Et cette foule était remplie de ces personnes qui voulaient une espèce de qui avaient vécu peut-être certaines choses avec le Seigneur, mais qui le suivaient pour des mauvais prétextes. Et on peut même se tromper avec la parole de Dieu. Comme eux se sont trompés. Ils savaient qu'il y avait le prophète qui devait venir. Ils savaient que le Messie était censé venir, mais ils se sont trompés quant au fait qu'il allait devoir passer à la croix avant de revenir en tant que roi. Troisième mouvement, c'est les disciples qui vont de la terre à la mer. C'est au verset 16. « Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. » Si on lit l'évangile de Marc qui raconte la même histoire, on se rend compte que c'est Jésus qui leur a demandé d'aller là-bas. C'est Jésus lui-même qui leur a dit « Allez, traversez la mer sans que je sois là. » Parce que pendant ce que Jésus essayait de convaincre les personnes de ne pas le faire roi, et puis il a même à un moment donné laissé tomber, il est allé prier sur la montagne. Pendant ce temps, les disciples, eux, sont partis et ils ont quitté la terre ferme. La terre ferme, ça nous parle de le lieu de l'assurance. Ça nous parle, moi je pense que ces disciples, ils étaient encore dans l'euphorie du miracle. Ils disaient, mais c'est extraordinaire le Seigneur qu'on a, c'est magnifique. Ça nous parle un peu du succès humain. Peut-être que même, j'ai pensé à cette chose, je crois que je me trompe pas trop en pensant ça. Peut-être que même certains disciples, ils commençaient, eux, à s'imaginer qu'ils allaient faire de bons ministres si Jésus était roi. Puisque Jésus, les gens voulaient le faire roi. Ah, moi je serais bien un bon ministre des transports. Moi, je serais un bon ministre de la pêche, hein, pour l'apôtre Pierre. Peut-être qu'il pensait à ces choses. Il dit, oh, on va avoir du succès. Marc, il nous dit cette précision qu'après le miracle de la multiplication, ils avaient encore le cœur endurci. Les disciples, ils étaient encore endurcis dans leur cœur. Et moi, je crois que Jésus n'a pas fait au hasard quand il les a envoyés tout seuls au milieu de la mer. Je crois que c'était quelque chose que Jésus voulait leur apprendre encore. Et je crois, parce que quand les personnes sont venues voir Jésus, ils disent, Seigneur, comment, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur a pas répondu à cette question. C'était comme s'il disait, cette histoire, c'est entre moi et les disciples. Vous, vous avez eu la multiplication, j'ai pu vous donner cette leçon spirituelle, mais les disciples avaient besoin de quelque chose de plus, parce que c'est les gens qui veulent me suivre véritablement. Ils ont besoin de quelque chose, d'une compréhension plus particulière. Alors je vais leur faire connaître ce moment particulier où ils vont être dans une tempête et où je ne serai pas présent. Parce que ces disciples, ils ont déjà vécu une tempête avec le Seigneur Jésus. Même s'il dormait, il était présent dans la barque. Et dès l'instant où ils ont crié au secours, il était là pour calmer la tempête. Mais là, c'était autre chose. La situation, elle est totalement changée. Ils ont quitté leur assurance, ils ont quitté les succès humains, ils ont quitté toutes ces choses-là. Et ils arrivent, à un moment donné, il y a la nuit, il y a un grand vent, et le vent, ça parle de l'épreuve. Il y a la mer qui est agitée par ce vent. Et la mer, ça nous parle de ces moments où on n'a plus pied. Il y a le psaume 18 qui qualifie un peu les grandes eaux. C'est comme un adversaire puissant. Un ennemi qui est plus fort que moi. Les eaux sont comparées à un adversaire puissant. Un adversaire puissant ou un ennemi qui est plus fort que moi. Et un des premiers ennemis auxquels je pense quand je lis ces textes, c'est le péché. Cet adversaire puissant. Dans chaque être humain, cette tendance à pécher, cette tendance à se rebeller contre le Seigneur. C'est un adversaire puissant parce qu'on se rend compte que même si on ne veut pas faire le mal, on le fait quand même. Et même si on veut faire le bien, on n'arrive pas à le faire, parce qu'on n'en a pas la capacité. Le péché est là, et c'est quelque chose dans lequel on peut perdre pied. Mais la suite du psaume nous encourage. L'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Et oui, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et Jésus aimait les disciples. Mais à ce moment-là, alors qu'ils étaient dans cette embarcation qui sûrement était... Il y avait des vagues terribles, ils étaient là en panique... Il n'y avait pas le Seigneur qui était présent au milieu d'eux. Et je crois que la plus grande leçon que le Seigneur Jésus voulait leur donner à ce moment-là, c'était de réaliser qu'il n'était pas là. La première chose, réaliser que par eux-mêmes, ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient pauvres, ils étaient perdus, ils ne s'en sortaient pas. Je crois que la plus belle chose qui peut prendre place dans ce moment-là, ce n'est pas de voir Jésus qui marche sur l'eau, mais c'est de réaliser d'abord qu'on est perdu sans le Seigneur, qu'on est perdu sans Jésus, et qu'on a un besoin incroyable de lui. Et il y a quelque chose quand même qui est impressionnant. Moi, j'ai l'impression que Jésus, il est en train de répéter la leçon du miracle précédent, de multiplication des pains, mais il est en train de la répéter un peu plus poussée pour les disciples. Vous savez, dans le lieu désert, le danger, c'est justement de ne pas avoir de nourriture. Et c'est le danger qui peut nous conduire jusqu'à la mort. Mais quand on est dans une mer déchaînée, et qu'il y a un vent contraire, le danger, c'est qu'on peut couler. Et à ce moment-là, la question se pose, où est le Seigneur Jésus? Et est-ce qu'on comprend ce soir que, quelles que soient nos victoires du passé, quelles que soient les prières qui ont été exaucées, il y a même des personnes qui ne sont pas au Seigneur qui ont eu des prières exaucées, mais quelles que soient toutes ces expériences qu'on a pu vivre avec le Seigneur, on a besoin de lui. Et on est perdu sans Jésus, tout simplement. Est-ce que nous le comprenons? Parce que le quatrième mouvement, il est bien clair, c'est Jésus qui était sur la montagne. Marc nous donne ce détail qu'il se rend compte que les disciples, ils ont de la peine à ramer. Ils ont du mal. Ça fait un moment, ça fait plusieurs heures qu'ils essayent de ramer, ils sont à un moment donné où ils n'en peuvent plus. Et le mouvement qui se passe, c'est que de la montagne où il était en train de prier, Jésus descend, va jusqu'aux disciples, peu importe qui est la mer ou qui est la terre, ça ne dérange pas le Seigneur. De toute manière, c'est Dieu. Donc, c'est que des détails. Mais il va à l'endroit où personne ne l'attend, entre guillemets. Parce que n'importe quel homme, on n'attendrait pas qu'il arrive en plein milieu de la mer. Vous êtes d'accord? Jésus, il va à l'endroit où on ne l'attend pas. Et Jésus les rejoint de façon miraculeuse. Et c'est vrai qu'il a quand même marché sur les eaux. C'est quand même. Mais, alors, je veux dire, oui, Jésus, c'est Dieu. Jésus est capable de faire toutes ces choses. Je voudrais le dire de manière concrète aujourd'hui. Jésus est capable d'utiliser toutes les circonstances, les épreuves, tout ce qui peut arriver dans la vie d'un homme. Il est capable de les utiliser pour faire sa volonté à lui, pour amener les choses là où il veut les amener. Parce que pour Jésus, il n'y a aucun problème. Il a cette domination sur les éléments de la nature. Quand la première fois qu'ils étaient dans la tempête, les disciples, ils ont vu Jésus calmer la tempête d'une simple parole. Ils ont dit à qui est celui-là qui obéissent même la mer et le vent, même à qui est cet homme? Et oui, Jésus est capable de faire ces choses. Mais Jésus est surtout capable de venir nous aider quand on dit c'est impossible que personne puisse m'aider. C'est ça l'important dans cette histoire. Et cette histoire d'ailleurs est, comme je le disais, rapportée dans plusieurs évangiles, mais Jean a voulu mettre l'accent, lui, sur la présence de Jésus ou l'absence de Jésus. Ce qui se passe quand Jésus est absent et ce qui se passe quand Jésus est présent quelque part. Et quand les disciples sont là, qui sont dans ce moment terrible, qui sont dans la panique et qui voient en plus quelqu'un qui approche sur l'eau, ils sont dans une peur incroyable, mais il y a une parole de Jésus qui est la parole qu'ils devaient entendre. Cette parole, c'est, on le lit au verset 21, « C'est moi ». N'ayez pas peur. C'est cette parole qu'ils avaient besoin d'entendre. C'est moi, c'est Jésus. C'est moi, celui qui peut vous sauver, celui qui vous a déjà sauvé dans la tempête, celui qui vous a sauvé du danger de mourir de faim dans le désert. Moi, je suis capable de vous sauver. Je suis capable d'intervenir dans votre situation. La seule condition pour que le Seigneur puisse intervenir, c'est de faire comme ses disciples ont fait. On voit que quand ils voient Jésus qui approche, oui, ils ont eu peur, mais ils ont entendu cette parole qui les a réconfortés. « C'est moi, n'ayez pas peur. » Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Est-ce que nous voulons prendre Jésus dans notre barque? Est-ce que nous voulons recevoir le Seigneur Jésus dans notre cœur, tout simplement? Est-ce que nous voulons vivre cette vie que le Seigneur désire que nous vivions? Ou est-ce que nous voulons nous laisser envahir par l'eau qui nous environne, les circonstances, les épreuves, le vent contraire, toutes ces choses qui sont là, le péché qui nous tire toujours vers le bas, est-ce que nous voulons être délivrés? Ça, c'est la question. Mais je remarque aussi que dès l'instant où le Seigneur Jésus est rentré dans leur barque, aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Alors, je vois même qu'il n'y a pas ce moment où Pierre est sorti sur la barque, parce que l'apôtre Jean ne voulait pas mettre l'accent sur ça. L'apôtre Jean voulait montrer que dès l'instant où Jésus est rentré dans la barque, la solution était trouvée, le problème était réglé. Il y a 90% du problème qui avait été réglé, maintenant il ne restait plus qu'à arriver vraiment à l'endroit désiré. Quand on laisse le Seigneur Jésus quand on le laisse entrer dans notre cœur, la solution est là. Tout est déterminé. Le Seigneur Jésus est capable d'intervenir dans notre situation si on lui demande véritablement pardon, si on lui demande, si on se repent de nos péchés, le Seigneur Jésus est capable d'effacer tout cela. Et je voudrais terminer avec simplement cette chose. Tout ce que Jésus a fait, Jésus est marché sur l'eau et il nous invite, nous, maintenant, si nous le recevons dans notre vie, il nous invite à entrer dans cette vie nouvelle. Avant, nous marchions dans nos offenses, maintenant nous marchons d'une manière digne de Dieu. Avant, nous marchions selon la chair, maintenant nous marchons selon l'esprit. Avant, nous marchions selon la vue, maintenant nous marchons selon la foi. Est-ce que nous voulons cette vie-là? Est-ce que nous voulons vivre? Avant, nous marchions en ennemis de la croix. Maintenant, nous marchons dans l'amour, dans la lumière, dans la vérité, tout ce que le Seigneur Jésus peut nous apporter. Et alors qu'ils étaient là dans l'obscurité, dans la tempête, Jésus est venu lui apporter cette lumière, et est venu apporter ce salut simplement par sa présence. Est-ce que ce soir, nous réalisons que nous avons besoin de lui, tout simplement? S'il y a bien une chose que nous pourrions retenir de cette soirée, de ce partage, c'est que nous avons besoin de Jésus, que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous sommes à l'image de ses disciples qui sont dans la tempête, en proie à toutes sortes d'événements qui se passent, auxquels ils n'ont plus de contrôle. Ils sont loin de ces terres fermes et solides sur lesquelles ils ont pied. Ils sont dans ces moments où ils perdent pied, ils n'ont plus le contrôle des événements. Mais si Jésus est dans la barque, tout est trouvé, tout est réglé. Jésus est cette promesse que Dieu a envoyée aux hommes, cette promesse, cet accomplissement de la promesse de Dieu. Jésus est celui qui vient d'en haut. Est-ce que je vais simplement accepter de le recevoir dans mon cœur et de le laisser surtout diriger ma vie, le laisser faire son œuvre dans ma vie? Jésus a donné sa vie pour que nous puissions recevoir, nous, sa présence dans sa vie. Le péché nous éloignait de lui, mais par sa présence en nous, il est le seul capable d'effacer notre péché et de nous rapprocher de Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Merci Éternel. Merci parce que tu nous donnes encore ta parole et cette parole est bonne à nos cœurs, Seigneur. Nous voulons réaliser encore ce soir que c'est un miracle d'être dans ta présence. Nous voulons réaliser que l'important, ce n'est pas la façon dont tu résous les problèmes, Seigneur, mais c'est que tu résous les problèmes. C'est que tu es la solution. Tu es le salut, Seigneur. Et nous croyons ce soir que tu es notre salut. Nous croyons que c'est par ta présence que nous sommes sauvés. Ta présence dans notre vie, Seigneur, c'est cela qui fait la différence. Et c'est ce que nous voulons voir ce soir, Seigneur. Dans chacune de nos vies, tu connais les cœurs de ceux qui sont présents. Tu connais les cœurs de ceux qui sont là, Seigneur. Tu connais les soucis. Tu connais peut-être les épreuves. Tu connais ces moments, ces circonstances particulières qui font qu'on a l'impression d'être dans une tempête. Mais Seigneur, nous savons une chose, c'est que si tu es présent dans l'histoire, eh bien, nous allons arriver au bon port par ta grâce. Alors Seigneur, dans ces moments, mais tu permets qu'une personne qui ne te connaît pas puisse simplement s'approcher de toi et que toi tu vas t'approcher d'elle, toi tu vas intervenir, toi tu vas faire le ménage, Seigneur, dans son cœur. Parce que tu es ce Dieu Tout-Puissant, parce que rien ne t'est impossible, parce que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es celui qui a été envoyé du Père, celui qui est venu d'en haut pour apporter la lumière aux hommes, Seigneur. Dans l'obscurité de ce monde, Seigneur, tu es celui qui brille et qui voudrait nous montrer le chemin qui nous conduit au Père. Seigneur, dans ces moments, alors que nous tournons nos cœurs vers toi, Seigneur, brille dans les cœurs de chacun d'entre nous et que nous puissions être éclairés de cette lumière spirituelle et que notre vie tout entière puisse maintenant être éclairé et que tu puisses nous amener à cet endroit où nous serons à nouveau en sécurité, c'est-à-dire en dans ta présence. Merci pour ces moments éternels. Merci pour le miracle de ta présence. Seigneur, je te demande encore que chacun d'entre nous, nous puissions expérimenter ta grâce jour après jour, semaine après semaine, que nous puissions expérimenter que tu es présent dans nos vies, Seigneur, et en voir les fruits. Mais aide-nous à marcher, non pas selon ce que nous voyons, mais selon la foi, Seigneur. Aide-nous à marcher, non pas selon notre chair, mais selon ton esprit. Merci parce que tu nous aides dans tout cela, Éternel. Merci pour ton amour magnifique, Seigneur, pour ton œuvre incroyable que tu as manifestée à la croix. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.